18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi 1er octobre 2025, voilà comme ça tout le monde à la date, 18h10, vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G. À l'écoute de Topette, Topette qui continue sa rentrée, hein. Il y a toujours les petites nouveautés qui arrivent en cours de route. Alors est-ce qu'on a des nouveautés ce soir? Je prends ma petite feuille. Alors là non, c'est pas une nouveauté, c'est un renouveau. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Toujours là?
On m'a pas encore délogé de force.
Est-ce que tu peux partir s'il te plaît?
À bientôt.
Non, bien sûr que non. Adrien qui capte toujours rien pour cette saison 2025-2026. À 18h30, on va pas faire ce que tu nous as partagé sur les réseaux l'autre jour, hein, parce que ça, c'était drôle, mais on l'entend pas.
Ouais, non, les silences, c'est pas très radiophonique.
C'est pas très radiophonique. Effectivement, Adrien qui capte rien. Alors, je vois les invités qui ont le regard assez médusé, qui ne comprennent pas non plus. Ils comprendront peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Je vais les présenter dans quelques instants. Mais avant tout ça, une voix qu'on a déjà réentendue la semaine passée, celle de Mathéo. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Pas de chronique d'actu pour toi ce soir, mais un compagnon de route. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer tout à l'heure en fin d'émission?
Eh ben, on va parler de cinéma, on va parler du dernier film de Paul Thomas Anderson.
C'est exact, voilà, qu'on a vu la semaine...
Dernière, il y a une semaine, ouais, tout pile, ça, ouais. Le jour de sa sortie, donc il s'appelle One Battle After Another.
Voilà, ouais, très bel anglais, bravo Mathéo, meilleur que moi en tout cas. Le synopsis avec Emilien et Mathis, c'est fini, ils sont en pause pour l'instant, en tout cas pour cette saison, puisqu'ils sont partis sur des aventures parisiennes. Donc la chronique ciné de Topette, ce sera désormais... animé par vous deux. J'ai perdu le nom, tu peux me le redonner s'il te plaît Mathéo? Pas
elle
du film hein.
Non, elle s'appellera 2,5, en référence à 8,5 de Fellini.
Bah, j'ai pas la ref perso, mais j'irai sur Wikipédia pour me renseigner. Les invités de ce soir, on va toucher du bois justement, c'est ce qui était promis, puisqu'on sera avec Claire et Victor qui sont tous les deux ébénistes dans leur domaine respectif, même s'ils partagent énormément de valeurs, notamment un atelier si j'ai bien compris à Pépina. Claire Sorin qui fait Petit Fauve Mobilier je crois même pour le nom complet, du mobilier en bois pour les chats, et Victor qui fait avec l'atelier Koala du mobilier, des objets ludiques aussi en tout genre, et même des vannes aménagées. En fait, c'est du sur-mesure, tout simplement. Donc, on va pouvoir s'intéresser à leur activité et aussi leurs valeurs, leur parcours et leur expérience à Pépina. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, encore une nouveauté que je n'avais pas annoncée, les conseils de mamie qui ce soir vous proposent un frigo qui sent bon.
Salut John, c'est mamie. Alors ça, pas du tout, je viens d'ouvrir ton frigo, y a pas à dire. Ça, schneck, le fennec, elle refoule du goulot ta boîte à bière. Je sais pas si c'est les restes de la semaine dernière ou le fromage qui est venu à pied, mais en période de guerre, on appelle ça une attaque à l'arme chimique. Alors, heureusement que tu m'écoutes, je vais t'aider à sentir meilleur. Et pas avec du fébraise, je te rappelle qu'on est au-dessus de ta bouffe. Alors que du naturel. Tu vas me faire le plaisir et au franc prix du coin, prendre une boîte de bicarbonate. Au rayon ménager, hein, pas alimentaire, parce que ça existe aussi en comestible. C'est du potassium, toi tu veux du bicarbonate de soude. C'est pour le ménage, et ça te coûte 5 euros. Ça y est, t'es déjà revenu? Ah bah putain, t'es rapide. Bon alors, note la recette. Si tu la rates, hein, c'est que t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Tu prends une petite boîte. Moi, j'utilise un ancien pot de yaourt. Tu y mets 3 cuillères à soupe de bicarbonate et... Eh ben voilà, c'est tout, mon con. Tu le mets au frigo, comme ça. Voilà, tu le changes tous les 3 mois. Mets une date sur le pot, parce que te connaissant, dans 3 ans, il aura pas bougé si t'as un doute. Et ça marche aussi pour le tapis sur lequel ton chat s'est laissé aller par vengeance parce que t'as pas changé sa litière. 3 semaines, ça commence à se voir. Bon, bref, tu saupoudres de bicarbonate, tu laisses 30 minutes, t'aspires et hop, tu respires mieux. Voilà, ton bicarbonate, il va te bouffer littéralement tes odeurs. Il les neutralise chimiquement et c'est sans danger pour les animaux et les aliments. Alors merci qui? Si tu dis Jacques et Michel, je t'en colle une. Allez, salut le jeune, c'était Mamie dans ta radio. Pff, même pas une binou dans son frigo, le rat.
La binouze avec modération, bien évidemment, parce que si vous en buvez trop, vous aurez la gueule de bois, justement, c'est un petit peu en lien avec les sujets de ce soir.
l'invité de Topette sur Radio G.
Et bonsoir Claire.
Bonsoir.
Claire Sorin de Petit Fauve Mobilier et bonsoir Victor.
Bonsoir.
Victor Martineau de l'atelier Koala avec un C à Koala.
Tout à fait.
Et on va parler de bois, c'est pour ça que j'ai fait le petit jeu de mots. Voilà, je me suis laissé emporter par les conseils de mamie qui étaient assez drôles. Et puis il y a Adrien qui me regarde du coin de l'œil, donc je tente. Mais on va surtout être sérieux pour parler de vos activités respectives. Alors vous êtes tous les deux évidemment ébénistes, menuisier ébéniste, c'est le terme qui convient, Claire, aussi pour ton activité.
Alors c'est plutôt ébéniste tout court, mais...
Ce sera l'occasion justement de redéfinir ce que c'est l'ébénisterie. On va parler donc de vos activités respectives, aussi de votre expérience à Pépina, mais également de vos valeurs, car il semblerait que vous partagez des valeurs en commun, comme le recyclage, la réutilisation, le réemploi. En tout cas, on est très loin de la surconsommation. On ouvrira éventuellement le débat tout à l'heure. Je vais commencer par toi, Claire, sur la présentation de ton activité, parce qu'elle m'intrigue, très honnêtement. Autant avec toi, Victor, on peut comprendre que des êtres humains demandent une étagère, une commode, une table, souhaitent aménager leur van, par exemple, avec du bois, des éléments en bois. Autant Claire, les chats, je ne savais pas qu'ils étaient aussi dans cette demande. Que propose Petit Fauve Mobilier ? C'est quoi ton activité ?
En fait, je suis partie Donc j'ai adopté un chat récemment, l'année dernière. Et en étant ébéniste, j'ai commencé à lui fabriquer plein de mobilier, plein de choses pour qu'elle se sente mieux chez nous. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire pour eux parce que les animaux sont dans la nature. Les chats sont dans la nature des animaux arboricoles. Ils ont besoin de grimper, ils ont besoin de se défouler, de faire leurs griffes, etc. Et donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en appartement. Il y en a même ceux qui sont axés à l'extérieur ont des périodes où ils restent l'hiver, où quand ils sont malades, ils restent plus à l'intérieur. Et donc, ils ont des besoins qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est surtout dans les animaleries, dans les grandes surfaces, c'est pas tellement qualitatif, c'est pas toujours joyeux au niveau du design, etc. C'est souvent fabriqué loin, pas en France. Et l'idée, là, c'est du coup de faire des accessoires, du mobilier, du sur-mesure aussi, comme je suis ébéniste, à partir donc de bois de réemploi. Donc on en reparlera plus tard, mais... et donc de travailler avec des comportementalistes, avec des designers aussi pour faire des choses qui plaisent aussi à nous, leurs humains. Et voilà.
Donc si je comprends bien, là on va allier plein de choses différentes avec les objets que tu proposes. Ça va faire plaisir aux chats, aux personnes qui ne sont pas propriétaires mais qui vivent avec le chat, les êtres humains qui vivent avec le chat. Et en même temps, c'est aussi une manière de s'adapter à des produits peut-être qui n'existent pas assez sur le marché pour les chats. Parce que par exemple, on a tous des chats ici, peut-être. Le canapé se souvient des griffes de nos chats. Donc là, tu vas proposer des choses qui peut-être sont de meilleure qualité, qui sont plus adaptées aussi aux vrais besoins du chat et en même temps qui vont avoir un côté esthétique, si je comprends bien.
C'est ça. Donc par exemple, le chat, il a besoin de se mettre en hauteur pour se mettre en retrait de l'animation des humains ou tout simplement pour observer. C'est une occupation à part entière pour lui. Bientôt, il y aura de proposer des parcours muraux pour qu'ils puissent, pour que leur surface de jeu soit étendue au maximum. Donc, des arbres à chat, des parcours muraux, des griffoirs de différents types, parce que les chats ont des envies différentes en termes de griffoirs, en termes de matière, d'orientation, etc. Donc voilà, travailler sur du sur-mesure et puis une collection qui sera disponible aussi toute l'année, sur un site.
Je me tourne vers Mathéo. Mathéo, je sais qu'il a beaucoup de chats chez lui, chez sa maman. On peut peut-être les nommer si elle nous écoute.
Tu veux que je nomme mes trois chats ?
Oui, tes trois chats, s'il te plaît.
Je leur ferai écouter l'émission aussi en podcast, mais on a Sakura, on a Dodu et on a Totoro. Voilà.
Est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Claire par rapport aux besoins du chat ? Est-ce que tes chats aussi vont des fois en haut des meubles, font leurs griffes un peu partout à droite à gauche ? Est-ce que tu reconnais ces éléments-là ?
Oui, bien sûr. Après, moi, j'habite en campagne aussi, donc j'ai un environnement qui fait qu'il y a beaucoup d'accès à la hauteur. Donc, c'est pas rare de les voir justement gambader sur nos murs, sur nos toits, Mais oui, c'est vrai qu'on a aussi, bah, par exemple, nos canapés, hein, t'en parlais, le fait de griffer dessus. Et bah, c'est pas rare aussi de les voir en hauteur sur nos canapés pour nous observer, en tout cas, voir ce qu'on fait.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette proposition d'avoir du mobilier comme ça, sur mesure, esthétique, et en plus qui correspond aux besoins des chats?
Et bah, je trouve ça très intéressant. En plus, ça offre aussi un petit coin au chat, donc ça peut aider justement on va dire l'éducation du chat par les propriétaires, parce que j'imagine qu'aussi pouvoir identifier cette zone comme la zone du chat, ça a un apport pour l'humain aussi qui est assez intéressant. Et puis juste de manière esthétique, c'est toujours sympa aussi d'apporter des nouvelles variations à notre décoration. Donc non, c'est une proposition qui me parle, bien sûr.
Alors Claire, si on va un petit peu plus loin sur comment tu travailles, tu parlais de comportementaliste aussi. Alors il y a des clients qui te sollicitent, tu as des propositions, des solutions un peu toutes faites. Comment tu envisages les choses avant de te mettre vraiment au travail concrètement en ébénisterie?
Ouais. Et ben du coup, soit je travaille sur commande, soit j'ai une idée que je veux développer pour ma collection. Mais par exemple, effectivement, si je travaille sur commande, là par exemple, j'ai fait un meuble qui vient cacher une litière dans un salon, donc dans un appartement qui n'est pas très grand. La litière se retrouve au milieu du salon et bon, c'est pas...
On connaît ça, voilà. Si on a des chats.
et donc là, l'idée, c'était de reprendre l'esthétique d'un meuble du client, donc dans la couleur, dans les détails de profil, etc., de poignée. Et donc de dessiner un meuble qui vient se glisser sous le plan de travail d'une cuisine pour venir intégrer cette litière et puis ajouter aussi un petit espace pour ranger la poubelle, la pelle à litière, etc. Donc voilà, c'est ça. Donc, et puis travailler ensuite sur... quand il est dans sa litière, il a besoin, le chat, de voir ce qu'il est autour de lui parce qu'il est dans un moment de vulnérabilité, et donc l'idée, c'est pas de l'enfermer surtout. Donc là, je travaille moi sur des parois qui sont ajourées, donc il a quand même un visuel sur ce qui se passe autour de lui.
Et ça, c'est intéressant que tu prennes cet exemple concret, parce que du coup, on comprend bien l'idée de sur-mesure, de s'adapter et au chat et à la demande du client, du coup, qui a des besoins autres que le chat, peut-être, mais sans négliger les besoins psychologiques du chaton. Et ça concerne aussi l'activité de Victor, le sur-mesure. Tout à l'heure, on va aussi parler, tu le disais Claire, de réemploi, hein, parce que c'est aussi l'objectif derrière. Avant tout ça, on se fait une première pause musicale sur le 100.5 FM, c'est Highway Tune de Greta Van Fleet. We'll be right back. Rita Van Fleet de Highway Tunes sur le 101.5 FM de Radio G.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Radio G. Voilà, dans quelques instants, on aura Adrien qui ne capte toujours rien. Il n'a pas compris que c'était bientôt son tour d'ailleurs, mais ce sera voilà, encore 10 minutes de patience, Adrien. Ça va aller ?
Oui.
Oui, ok. Oui, ça va
aller. Tu m'as pris de court.
Oui, tout est écrit, rassurez-vous. C'est maîtrisé. C'est un artiste du stand-up qui arrive donc à 18h33. Si on tient les timings, mais avant tout ça, on retourne en bois. Voilà, on était avec Claire il y a quelques instants pour parler de Petit Fauve Mobilier, qui est toujours avec nous, hein, Claire, pour parler évidemment de tes réalisations, de ton ébénisterie. J'insiste, hein, parce que le terme, j'ai vraiment envie qu'on le définisse tout à l'heure. Vous m'y faites penser si je l'oublie. Mais avant tout ça, on va s'intéresser à l'atelier Koala. Après les chats, on parle des koalas. Certainement avec toi, Victor Martineau. Koala, tiens, je te vois me regarder à l'énoncé de ce nom. Tu peux peut-être nous l'expliquer parce que j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose vu qu'on n'a pas le cas de koala.
Tout à fait. Koala, c'est des lettres pour. C'est un acronyme. Parce que je me définis comme étant un créateur d'objets artistiques, ludiques et artisanaux.
Koala.
Tout à fait. Et puis, il y a un petit bonus plus un pour la. On me retrouvait sur Internet, parce que la plupart du temps, effectivement, les gens ils cherchent koala avec un K, et donc dès qu'on change une lettre, on me retrouve plus facilement. Voilà.
Très ingénieux, comme ce que tu proposes justement en termes de... Alors toi, on peut mettre menuiserie aussi, je crois, hein. C'est comme ça que tu t'es présenté.
On pourra redéfinir plus tard, mais en fait, menuiserie, c'est un peu un mot valise, et ça englobe l'ébénisterie. Tous les ébénistes sont d'une certaine façon menuisiers, tous les menuisiers ne sont pas forcément ébénistes. Et donc, je me définis un peu comme les deux. Là où moi je me spécialise, c'est dans le mobilier. Donc, rien à voir avec l'aménagement, puisque le ménagement, c'est quelque chose qu'on va fixer dans le mur, qu'on ne pourra pas bouger. Mobilier, mobile, voilà, ça va être des commodes, des chaises, des tables, des choses qu'on va pouvoir déplacer pour peut-être rechanger un peu son salon, si on a envie d'un peu de renouveau. Et dans les objets ludiques. Pourquoi je dis objet ludique et pas juste jeu en bois, c'est qu'en fait, étant très joueur moi-même, notamment de jeux de société, je propose du mobilier qui permet de faciliter le fait de jouer à des jeux de société. Parce que des fois, on a des parties qui peuvent être un peu longues, où on se lance dans un puzzle, hein, 5000 pièces, on ne le fait pas en 5 minutes. Et donc, c'est de créer du mobilier qui peut s'adapter, où on peut recouvrir la partie en cours et faire d'autres activités, utiliser la table comme une table très classique, mais sans avoir besoin de tout ranger. Juste après, on réenlève les couvercles, et on a re-accès là où on s'était arrêté, au puzzle, à la partie. Et voilà, avec tout un lot d'accessoires pour des portes-gobelets, des espaces pour jeter les dés, tout ce qui va.
Alors c'est très intéressant que tu t'étendes un petit peu sur ce côté ludique justement qui fait écho à une autre activité que tu as par ailleurs, puisque c'est aussi ce qui caractérise globalement toute ton activité. On est là aussi sur du sur-mesure, mais aussi sur quelque chose qui te tient à cœur. Il y a une démarche, il y a une évolution vers ce projet, et il y a aussi dans le contact avec des clients, voilà, c'est souvent des amis ou alors des amis d'amis. Comment tu travailles ? Quelle est la démarche globale au-delà du simple fait ? Enfin, même du simple fait, je raccourcis, hein, bien évidemment que c'est tout un art de proposer des choses sur mesure, mais il y a aussi cette démarche-là qui est très importante dans ton travail.
Comment je travaille ? Moi, j'ai fini par me mettre à mon compte. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille dans le bois, en menuiserie et ébénisterie. Ce qui m'a motivé à me lancer, c'est qu'effectivement, j'ai eu un certain nombre de personnes dans mon entourage plus ou moins proche qui m'avaient déjà sollicité pour faire des armoires, faire des tables. Et je me suis dit qu'avec tous ces gens-là mis bout à bout, ça pouvait déjà faire quelques mois de travail assuré. J'ai lancé l'aventure il y a 2 ans où je me suis mis à mon compte. D'abord en travaillant un peu comme je pouvais dans un garage. En novembre dernier, j'ai rejoint les ateliers partagés de Pépina à Angers. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Claire. Et là, c'était un tout autre confort de travail. Je suis un peu arrivé au bout de tous ces gens qui... m'avait déjà sollicité, donc maintenant il y a le bouche à oreille qui commence à faire son effet, le fait de travailler dans un atelier partagé où il n'y a pas que des menuisiers ou des ébénistes qui travaillent, ça augmente le réseau et ça permet de,
d'avoir des contacts par-ci, par-là, parce qu'il y a un plombier qui va dire « Ah, bah, j'ai un client qui pensait se faire une table, je lui ai passé ton numéro. » Et voilà.
En ce moment, est-ce qu'il y a un chantier en cours sur lequel t'es, on peut dévoiler un peu les coulisses ?
Ouais. En ce moment, je suis en train de faire une bibliothèque qui va être en 4 éléments. Donc, ça sera bien une bibliothèque mobile. 4 éléments qui vont venir dans toute la longueur d'un couloir chez les clients. Voilà, quelque chose d'assez classique, mais qui permet de ranger beaucoup de livres, chose qu'ils ont en grand nombre.
Voilà, des grands lecteurs, j'imagine.
Certainement.
Certainement. Peut-être un mot là, tu parlais de Claire, tu parlais de Pépina. Claire, sur la rencontre avec Victor, pardon. Et puis du coup, son travail, parce que du coup, vous avez quand même des points communs. Qu'est-ce que tu penses de son travail, de ce qu'il a fait, de aussi sa démarche globalement ?
Mais avec Victor, on se rejoint vraiment sur cet aspect de réemploi. Et donc là, c'est tout un sujet, le réemploi. Donc aujourd'hui, on prône un peu un changement de mode de consommation. Donc il y a la fast food, il y a la fast fashion et il y a aussi la fast déco. Avant, on se refilait les meubles de génération en génération et aujourd'hui, certains changent d'une saison à l'autre. Donc c'est un peu l'opposé. Donc c'est des productions de déchets, c'est de la consommation de ressources, c'est des productions de déchets qui sont démesurées. Et puis c'est du transport parce que c'est beaucoup de meubles qui viennent de l'étranger, etc. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec des structures qui nous aident dans le sourcing, donc les ressourceries, les matériothèques. Et aussi des entreprises comme Articonex, par exemple, à Angers, qui est un peu le Leroy Merlin de la seconde main, qui propose des matériaux de réemploi et de seconde main. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Et puis, au-delà aussi des fois de faire du réemploi, c'est vraiment réfléchir dans la conception, la réalisation du mobilier ou du mobilier pour chat, en l'occurrence pour Claire. Et c'est d'avoir des conceptions et des réalisations qui sont solides, qui vont durer dans le temps. Parce que bon, effectivement, les armoires normandes de mamie, c'est bien, ça tient dans le temps, c'est peut-être pas forcément esthétiquement ce que tout le monde recherche. Mais en fait, aujourd'hui, on a encore la possibilité, les compétences pour fabriquer du mobilier, fabriquer des choses de manière générale, je crois, hein, qui tiennent dans le temps et qu'on va pouvoir se transmettre de génération en génération. Donc, au-delà de aussi faire du réemploi, c'est faire du réemploi pour que ça dure.
Oui, parce que tout à l'heure, on pourra peut-être parler prix. J'imagine que forcément, c'est un peu plus cher que d'aller dans une grande surface. Alors, j'ai essayé d'en citer trois de tête. Tu parlais de Leroy Merlin, Ikea ou Castorama. Voilà, comme ça, on est réglo pour la pub. ça coûte, j'imagine, plus cher. Mais effectivement, il y a beaucoup d'avantages derrière. Ça va durer dans le temps. Et on va parler de cette notion de durer dans le temps, de moins consommer. On va aller un petit peu plus loin aussi dans le réemploi. Puis parler de cette expérience à Pépina, puis d'autres choses. Et on va définir ce que c'est.
Et la menuiserie et les médisteries.
Exactement. Avant tout ça, on écoute Adrien qui ne capte rien dans Topette.
Adrien capte rien dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Il m'avait manqué ce générique qui me met vachement bien en valeur. Ça va, vous avez passé un bel été ?
Oui.
Ouais, moi aussi, je rentre de Thaïlande là. Je suis devenu bouddhiste, figurez-vous. Je suis rentré la semaine dernière. En ce moment, en Thaïlande, il pleut. Ils viennent de virer le Premier ministre et ils vont dissoudre le Parlement. Donc, mon conseil, si vous cherchez un dépaysement, allez au Puy du Fou, vraiment. après, moi, je n'étais pas pour les vacances en Thaïlande parce que, déjà, pour prendre des vacances, il faut avoir un travail. Non, moi, j'étais en Thaïlande pour des funérailles. C'est la première fois de ma vie que j'assiste à des funérailles bouddhistes. J'avais pas vraiment les codes, mais je me suis un peu préparé parce qu'avant de prendre l'avion, j'ai téléchargé l'application Petit Bambou. Vous connaissez l'application Petit Bambou ? Le Petit Bambou, pour ceux qui ne voient pas, c'est des millions d'Occidentaux qui téléchargent une application pour voir Jeff Bezos en peignoir orange leur dire que la vie n'est que souffrance. Super coup de marketing, Petit Bambou. Par contre, c'est quoi ce nom, Petit Bambou ? Je trouve que c'est un peu cliché. Ils croient que les bouddhistes, c'est des pandas ou quoi ? Il faut qu'ils arrêtent de faire des applications sur les autres religions comme ça, sinon on va se retrouver avec l'application Petit Chameau. Non. Ou l'application Petit Enfant qui s'égare d'un secret.
Ok. Non, ils sont très forts en marketing, les bouddhistes. Moi, quand je vois, par exemple, chez mon coiffeur à la Madeleine, il y a une grosse tête de Bouddha coupée à ras du cou, placée sur une étagère entre deux bâtons d'encens avec de la musique de flûte de Pan. Ça, c'est un truc que vous verrez jamais à Bangkok. Enfin, vous verrez jamais chez un coiffeur thaïlandais une petite ambiance avec des chants grégoriens et sur une étagère Jésus décapité entre deux bouteilles de Côte du Rhône. Non, moi, je vous dis, je suis devenu bouddhiste parce que Bouddha, c'est un gars à qui j'arrive à m'identifier. Si j'ai bien compris, Bouddha, c'est un gars, il est né, il savait parler et marcher, déjà, HPI, comme moi. Et il était riche au début, il vivait dans un palais, il avait plein de pognon, un peu comme moi, avant de faire des chroniques bénévolement chez Radio G. Et un jour, quand il a eu 35 ans, Bouddha, il était pas bien, il est sorti de chez lui, il s'est posé dans un coin, comme ça, il a dit « Moi, je bouge pas tant que j'ai pas compris le sens de la vie », et il a pas bougé. Le bouddhisme, en fait, c'est une religion qui est basée sur l'histoire d'un gars qui a fait une dépression. Ça, c'est une religion qui me parle. Et il a compris, finalement, comment se dégager de ses souffrances, Bouddha. Il a délivré ses enseignements. Il a dit, en fait, pour se dégager de ses souffrances, il faut se détacher de ses désirs et prendre un legzomil après chaque repas. Bon, moi, je vous dis, je suis devenu bouddhiste. Avant, j'étais catholique, comme l'abbé Pierre ou Christine Boutin. Mais je n'arrivais pas à m'identifier à Jésus. Jésus, pour moi, il est trop maigre. Moi, quand je le vois sur sa croix, on dirait Pierre Benoît qui a échoué à monter un meuble Ikea. J'ai envie de lui donner un Big Mac, un Doliprane, un vaccin contre le tétanos. Alors que Bouddha, quand tu rentres dans un temple bouddhiste, tu vois, là, il fait chaud, il y a de la moquette par terre, on enlève ses chaussures. Et au fond, il y a un petit gros en peignoir qui fait sa crise de la quarantaine en regardant par terre. Là, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Là, j'ai envie de partager un anxiolytique avec lui. Enfin, tout ça pour vous dire que je suis hyper content de vous retrouver. Et comme c'est la rentrée, j'ai pas perdu mes bonnes habitudes. Donc cette chronique n'a pas vraiment de chute.
Je n'ai rien demandé, Adrien. Enfin, quelle entame. Adrien qui capte rien et qu'on peut retrouver aussi sur les... planches, on dit ça aussi pour le stand-up ou
ouais,
pas?
On dit les planches.
T'as des actus récemment ou pas en ce mercredi 1er octobre?
En ce mercredi 1er octobre. Je joue mon spectacle à Angers pour la première fois le 22 avril. Voilà.
Où ça?
Au Palace Comédie. Mais les réserves ne sont pas encore ouvertes. Donc ça sert à rien.
Tu lâches un truc là en fait. Là.
Non, mais c'est complètement officiel, mais il n'y a pas encore le lien de tout ça. Je suis hyper nul en promo.
Oui, c'est pas grave, bah, tu demanderas conseil à Bouddha peut-être sur, okay. Sur la promo. Adrien qui capte rien et qui reste avec nous et qu'on retrouvera dans deux semaines.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Bon, c'est pas fait exprès, mais il a trouvé des éléments un peu au raccord avec le mobilier d'une certaine façon. Ce qui est notre sujet sérieux de la soirée. On est toujours avec Claire et Victor. Vous allez bien toujours, Victor?
Tout à fait.
Claire aussi.
Impeccable.
Voilà, Claire, on rappelle que toi, c'est Petit Fauve Mobilier que tu as créé, du mobilier pour les petits fauves, donc les chats principalement. Ton chat qui s'appelle, on ne l'a pas dit à l'antenne.
Serra,
voilà. Tu lui avais fait quoi? C'est quoi son premier objet d'ébénisterie que tu lui as fait?
Alors, c'est la sécurisation de balcon. Parce qu'à l'époque, on était en appartement. Donc, et pour l'adopter, il fallait sécuriser le balcon. Donc, une structure avec des filets. Et des espaces pour se poster devant la rue.
Oui, j'ai jamais compris pourquoi les chats ils prenaient autant de risques à tomber là. C'est faut pas faire des trucs comme ça. Nous ils sont tombés du premier étage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Victor pour l'atelier Koala, du coup meuble sur mesure. Alors tout à l'heure on a présenté le parcours, t'as présenté 2-3 objets puis la réalisation en cours. Tu voulais peut-être rajouter des éléments sur ton activité, sur ton atelier Koala, qui veut dire, j'essaie de le retrouver de tête. Tu as dit création.
Créateur
original.
Créateur d'objets.
D'objets artisanaux,
ouais.
Ludiques et amical.
Et artistique.
Voilà, c'est ça.
Amical,
quoi, là.
Je prends aussi.
Du coup, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ton activité?
Eh ben, passer, acheter des trucs. Voilà.
Oui, voilà. Alors, t'as pas de magasin?
Non, j'ai pas de magasin. J'ai un site internet qui répertorie quelques créations que j'ai déjà pu faire. Où j'explique aussi un peu mon inscription dans un mécanisme de réemploi, mais c'est pas un site où on peut acheter des choses. Par contre, voilà, il y a mes contacts et je suis tout à fait disposé à causer projet avec qui
qui a envie d'en causer.
Voilà, en vrai, si on a une idée de... Si on ne trouve pas un meuble à sa convenance et qu'on est aussi dans cette démarche d'avoir un meuble qui dure, même si on le paye un peu plus cher, mais qui dure dans le temps et qui peut s'adapter, puisque c'est mobile, c'est aussi ça l'intérêt, ou qu'on veut quelque chose de vraiment sur mesure par rapport à ses activités ludiques, de jeu, ou même pour son van, par exemple, on peut bien s'inspirer et comprendre ce que tu fais et puis être séduit aussi par tes propositions. Donc voilà, c'est pas un catalogue, mais du coup, ça donne de bonnes idées pour la suite.
Ah, si, c'est un catalogue un peu, c'est juste qu'il n'y a pas d'option d'achat derrière. On ne peut pas ajouter au panier et après passer commande. Mais ça fait un peu catalogue, ça fait un peu portfolio.
Exactement, c'est ton book.
C'est mon book, tout à fait.
Claire, petite question, sur ton activité aussi, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Petit Fauve Mobilier ? Toi, tu n'as pas encore de site internet, par contre, il y a un Instagram.
C'est ça, un Instagram. Le site est en cours, le site marchand aussi. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Bah, à côté du mobilier pour les chats, je fais aussi un peu d'agencement, comme Victor. Et j'ai eu des opportunités, j'ai fait un petit peu de scénographie pour des musées aussi. Donc voilà, pour gagner sa croûte à côté, pendant que l'activité démarre et prendre l'ampleur.
Alors justement, tu parles de gagner sa croûte économiquement, parce que évidemment, vous êtes sur des propositions plutôt, je ne sais pas si on peut qualifier de niche, en tout cas, on n'est vraiment pas sur de la grande consommation, donc ça implique... Il y a des frais en attendant de pouvoir aussi avoir les clients. Les clients ne sont peut-être pas aussi réguliers que si on avait une grande structure marchande. Économiquement, comment vous envisagez les choses ? On est sur des choses stables ? Il y a des projets d'évolution derrière, par exemple, Victor ?
C'est toujours un peu compliqué. Je dirais que tant qu'on a des projets qui s'enchaînent, normalement, s'ils ont été vendus correctement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un peu de rentrée d'argent... en tout cas pour moi ça va, parce que là en charge fixe on a le loyer à Pépina, en tout cas charge fixe liée au travail, on a le loyer à Pépina, et puis en fait c'est à peu près tout. Après c'est que des charges flexibles de il va falloir que j'achète telle quantité de bois pour tel projet, que je pense à tous mes consommables, les papiers à poncer, les lames d'outils, tous ces trucs là qui vont devoir se changer de temps en temps, il faut le prendre en compte. Et après, d'un point de vue économique, c'est vrai qu'on tout à l'heure, on parlait de cette fast déco où il y a des meubles qui sont consommés à grande échelle et où sont souvent remplacés, soit parce que juste, en fait, c'est plus la tendance, soit parce que ils sont de piètre réalisation et donc se cassent, se délitent plus rapidement. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect avec, qui nous joue des tours à nous, artisans indépendants. C'est le fait qu'il y a une déconnexion un peu générale des consommateurs sur le prix réel du mobilier, puisque quand on achète quelque chose effectivement dans les grandes enseignes, le prix est très souvent réduit, ils sont très forts pour ça. Et donc après, quand les gens ont envie de se dire « Allez, cette fois, on aimerait bien mettre un peu plus dessous et avoir un vrai meuble qui nous dure dans le temps et qui vont voir des artisans », ils déchantent assez rapidement parce que les prix sont... même plus élevé. Et donc, d'un coup, ça refroidit beaucoup de gens.
Et en même temps, Claire, toi qui lances tout récemment aussi ton activité, ça peut être un très bon argument. On sait que la France, c'est un peu c'est là où il y a beaucoup de choses luxurieuses. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on est référencé économiquement. C'est aussi un avantage, un argument de vente. C'est plus cher, mais ça dure plus longtemps. Donc, il y a peut-être moins de commandes, mais du coup, ça suffit économiquement aussi à tirer son épingle du jeu. Je ne sais pas comment tu vois les choses.
C'est la première année là, donc je me suis lancée en janvier de cette année. Donc, aujourd'hui je suis à peu près à l'équilibre, mais l'idée ce serait de plutôt travailler vraiment à 100% sur les chats au plus vite en fait.
Tout le monde a des chats, donc je pense qu'il y a, il y a de la clientèle pour. Et en plus, il y a le site marchand qui va bientôt arriver.
C'est ça.
Ça va faire du bien ça.
Ouais. Et peut-être ce qu'on peut ajouter sur le réemploi, c'est que c'est donc pour nous deux, c'est vraiment un parti pris auquel on tient et qui est pas forcément facile à défendre, parce qu'en fait on récupère des choses qui auraient pu être jetées. On se dit, les gens se disent, c'est peut-être gratuit, du moins c'est moins cher les matériaux, mais c'est un peu contre-intuitif. Enfin, au final, c'est quelque chose qui va être plus cher parce que donc il y a ce temps de sourcing de la matière, il y a
une plus-value artisanale en fait, si on peut dire.
Oui. Non, mais vraiment dû au réemploi, il y a besoin de stockage.
Oui.
C'est des la matière, elle est pas tout le temps la même celle qu'on récupère, donc on s'adapte à la matière.
Ça demande du temps en fait pour quand on récupère un vieux meuble ou du bois qui sort d'un garage qui traînait que les gens voulaient s'en débarrasser. On peut pas juste aller, on met un coup de ponçage, de la colle et puis hop c'est parti. On a une étagère. Il y a vraiment une démarche de vérifier que les bois ils ont pas commencé à être mangés par des insectes ou qu'il a pas pourri parce qu'il y a un endroit où effectivement il touchait avec de l'humidité en permanence Et puis, ben, en fait, si ce bois-là, il a été stocké pendant très longtemps sans être utilisé, est-ce que ça en dit pas déjà un peu sur réellement sa qualité? Donc, ça veut dire qu'on peut pas forcément tout réutiliser. En fait, tout ce temps qu'on passe pour s'assurer que le bois qu'on va réutiliser va pouvoir durer dans le temps avec la construction qu'on prévoit de faire avec, ben, c'est du temps. Et le temps, ça se paye. Donc, même si la matière, juste la matière, coûte moins cher, en fait, il faut réussir à vendre ça derrière.
On parle du temps, justement, le temps passe, c'est très intéressant et du coup, ça aurait presque mérité que vous reveniez un peu plus tard dans la saison pour continuer le sujet. Il nous reste encore 2-3 minutes à la fin d'émission pour conclure, bien évidemment, et surtout donner les infos pratiques. Claire, juste, Victor a bien résumé ce que tu expliquais sur le réemploi, c'est ça que tu voulais dire?
Ouais, c'est ça.
Et ben, merci.
On peut se dire que c'est moins cher, mais en fait, pas forcément, c'est vraiment un parti pris.
Et ben voilà, merci Victor pour le résumé. Vous restez avec nous, bien évidemment. Vous aimez peut-être le cinéma. Voilà la nouvelle chronique ciné de Topette. C'est avec Mathéo et Johan. What are you gonna do about this baby?
Just when you think you got a handle on things.
Quand on est une femme, quand on est un homme dans un régime fasciste, on se bat, on va de combat en combat pour essayer d'attraper cette liberté qui s'est envolée, parfois depuis trop longtemps, retrouver de la souplesse morale et identitaire, se placer au sein d'un système dans lequel nous ne sommes plus des êtres humains, mais de la chair à canon, des machines ou des numéros. Ces impressions très proches du réel sont celles dont le réalisateur Paul Thomas Anderson a choisi de s'inspirer pour son dernier film, One Battle After Another, sorti au cinéma il y a une semaine et qui s'inscrit pour l'instant comme l'événement de l'année au cinéma. Des critiques dithyrambiques et un retour populaire excellent pour un véritable consensus collectif.
Oui, effectivement, réalisateur en vogue depuis les années 2000, notamment de There Will Be Blood en 2007 ou Magnolia en 1999. Il revient plus révolutionnaire que jamais avec ce long métrage qui fait couler beaucoup d'encre en positif dans la sphère cinématographique pour prétendre au titre du meilleur film de l'année. Le 10e long métrage de Paul Thomas Anderson est produit par la Warner à hauteur d'environ 140 millions de dollars et le plus gros budget de sa filmographie. Il s'agit de l'adaptation très libre du roman Vineland de Thomas Pynchon. Cette épopée de quasiment 2h50 raconte l'histoire d'un groupe de révolutionnaires combattant le fascisme grandissant d'une Amérique moderne. On y suit Bob, ancien membre des French 75, devenu addict et parano, ainsi que sa fille, qui se retrouve kidnappée par des ennemis de longue date liés à l'organisation révolutionnaire. Le long métrage s'inscrit dans la continuité de ce que l'on attend d'un Paul Thomas Anderson, à la différence que le réalisateur se frotte à un genre plus axé action, suspense, voire espionnage ou western dans certaines scènes. Un mélange de genres où le réalisateur prend toujours autant de plaisir à jongler aussi bien entre les codes du cinéma. C'était déjà le cas avec Licorice Pizza, son dernier film en date en 2021, où la comédie romantique était revisitée. L'intrigue principale du film s'articule autour d'un drame familial, à laquelle vient s'emballer une satire de notre époque moderne, ainsi que des scènes d'action, de course-poursuite et de dialogue toutes plus grandiloquentes et sarcastiques les unes que les autres, le tout donnant un mélange étrangement jouissif à suivre sans être redondant. Le long métrage renoue avec des thèmes chers au réalisateur tels que la domination entre humains. Et ça aussi, bien dans son scénario, entre la résistance et le régime au pouvoir, qu'entre ses personnages. Je pense là au personnage, bien sûr, de Perfidia, magnifiquement interprété par Terena Taylor, qui livre là une prestation qui crève l'écran. Elle déborde de charisme, son aura reste présente tout au long du film, et la particularité de son personnage, sans trop en dévoiler, c'est son envie de domination sur le régime mis en place. Cela fait écho bien évidemment au mouvement Black Power, ou Black Panther, du XXe siècle, des mouvements sociaux révolutionnaires défenseurs des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. De maintes références y sont glissées, « The Revolution Will Not Be Televised », célèbre citation du jazziste Gil Scott Heron est repris dans le film, et on sent, à travers ce personnage, tout l'héritage culturel personnifiant sa personne qui déborde.
Un autre personnage qui surprend, c'est celui de Sean Penn, le colonel Lockjaw, ce militaire ultra caricatural, autoritaire, qui représente cette partie de l'Amérique soumise à ce système, lui est hanté par un désir de soumission qui donne un contraste entre sa façade et ses profondeurs et qui influe directement sur le récit. Il est perdu dans la dureté de cette réalité qu'il dépasse, un pion qui se voit comme un roi mais qui agit comme un fou. C'est un petit peu l'opposé du sensei, hein, joué par Benicio del Toro. Lui est mexicain dans une ville à la culture hispanique marquée et dont les envies de révolte ne manquent pas. Une communauté dont il est le chef et qui agit comme une toile d'araignée servant les propos d'une révolution collective, intelligente et surtout fraternelle. Si le personnage de DiCaprio hésite constamment, a peur, lui joue son rôle de mentor, les yeux toujours portés sur le lointain, lui donnant à la fois un côté calculateur mais aussi de l'assurance. Car s'affirmer dans un régime fasciste, c'est aussi une des problématiques du film, très présente, hein, dans le développement du personnage de Willa, joué par Chase Infinite, qui est bluffante pour sa première au cinéma. Elle fait preuve d'une maturité presque parentale dans sa relation avec son père, qui la protège avec beaucoup de maladresse, qui les divise. Elle et Bob, donc le personnage joué par DiCaprio, ont bien du mal à se comprendre. Lui, ancien révolutionnaire, celui qui improvisait mais qui a perdu cela avec l'arrivée de sa famille, qu'il a souhaité protéger plus que continuer sa bataille. Il est constamment dépassé par les événements, aidé de bout en bout car il a peur tout le long du film. Il est effrayé par cette violence, effrayé par son passé, bien que parfois quelques briques de révolte remontent en lui.
Il faut bien comprendre que le film met vraiment l'accent sur son côté satirique et humoristique décalé tout en étant un reflet de la période dans laquelle nous traversons. Pour donner un peu de contexte, les États-Unis sont plongés dans un régime fasciste et raciste anti-immigration, ce qui va justifier les actes du groupe révolutionnaire contre le gouvernement, que ce soit à coup de sabotage ou alors d'assaut de camps de concentration. Le long métrage se déroulant en plus de ça à la frontière du Mexique, son environnement et son cadre appuient encore plus le propos et font écho comme une critique acerbe de la politique de Trump dans le pays. L'enjeu du film même en est la parfaite traduction du ton donné au film. Quand on y repense, on se dit à la fois que c'est exagéré quand même. Le but d'une satire, me direz-vous après. Mais à la fois, facilement transportable dans notre monde réel. Tant la politique menée là-bas est à la limite du burlesque, dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Mais même les évangiles y sont représentés comme une élite qui s'assume pleinement raciste et qui ont un pouvoir démesuré à travers leur religion, appâtée par la quête de former une seule et grande famille chrétienne. C'est à peine exagéré. Elle est là la prouesse de Paul Thomas Anderson. On se dit qu'on est à la fois très loin de la réalité décrite dans le film, et d'un autre côté on se demande, mais pour combien de temps? Ce fil rouge donne tout au long du film une dimension supplémentaire à ce drame familial qui est le plus que le bienvenu.
Courage. Yeah. Yeah. Thank you. Hey. Thank you, sensei. Thank you, sensei. Thank you. God damn it. Vive la révolution!
La révolution semble alors être la seule solution pour les protagonistes de l'histoire. Il y a véritablement deux camps, ceux qui acceptent et baissent la tête et ceux qui se lèvent pour prendre les armes. Il s'agit là de la vision des French 75 que nous suivons tout au long du film, sans forcément les présenter comme des sauveurs ou des saints. Non, on nous parle avant tout de ce pays ravagé par la ségrégation, le racisme, la haine, l'exclusivisme religieux, avec comme forme pour compacter le tout le fascisme. La critique, elle est là. La révolution apparaît alors comme la suite logique des événements, sans qu'elle soit véritablement une solution absolue dans la forme qui nous est montrée à l'écran. Elle est portée par beaucoup d'humanité, mais celle-ci semble divisée. Chaque personnage a ses propres convictions et les défauts qui découlent de ces dernières. Cette révolution, elle est nécessaire. Elle se porte de génération en génération sans jamais se romancer. One Battle After Another, c'est un mélange entre drame et satire qui appuie sur la mise en scène. Cette alternance entre gros plans et plans d'ensemble pour filmer à la fois les profondeurs des sentiments, la lecture que nous pouvons en faire et la cause de ces derniers, l'environnement dans lequel tout se passe. La lumière du film aussi n'est pas l'œuvre du hasard, elle est crépusculaire lorsque la menace dort et s'approche du zénith quand les personnages sont en danger. Ce mix qui rend la photographie aussi belle et si évocatrice, si symbolique également, porté également par la musique de Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, qui collabore avec Paul Thomas Anderson depuis 2007 et la sortie de There Will Be Blood. Il est désormais son compositeur attitré, comme pouvait l'être Ennio Morricone pour Sergio Leone, Bernard Herrmann pour Hitchcock ou encore Angelo Badalamenti pour David Lynch.
Pour continuer cet aparté par rapport à la musique du film, qui est une pièce maîtresse, pendant tout le long du film, la musique de Greenwood accompagne aussi bien les scènes de dialogue que les scènes d'action avec un piano qui semble presque désaccordé. La musique originale nous suit durant les 2h50 de film, et contrairement à ce que l'on pourrait craindre, elle ne sert pas de remplissage. Au contraire, elle accompagne les actions des personnages, leurs actions tantôt comiques, tantôt burlesques parfois même, dans des moments d'improvisation qui rappellent ce désaccord de piano justement très entêtant. Les moments suspendus sans musique sont là aussi pour appuyer le penchant dramatique des scènes très dosées là aussi.
«
poète Friedrich Herderlin disait que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Tout le propos de cette fresque, enfin c'est tout le propos de cette fresque de Paul Thomas Anderson. La révolution, non pas comme une solution, mais comme une nécessité face à l'oppression. La volonté, à travers de cette bataille qui est celle de ce film, de devenir une œuvre majeure de son époque et de marquer à sa manière notre monde qui s'extrémise.
Merci beaucoup, Mathéo, Johan, pour cette nouvelle chronique qui s'appelle Deuxième temps de trois quarts.
C'est ça, exactement.
Non, c'est comment le nom ?
Deux et demi.
Deux et demi, encore plus simplement, deux et demi. C'est marrant, d'habitude c'est plutôt deux demi te concernant. Là c'est deux et demi. On va pas dévoiler les choses qui se passent en dehors du studio. Le studio qui est encore rempli de ses invités, Victor et Claire, pour parler ébénisterie. Comme promis, il nous reste vraiment un tout petit peu de temps pour définir d'un mot simple. Qu'est-ce que l'ébénisterie, Claire ? C'est toi qui prends le micro, donc voilà, je te désigne.
Et un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est la création de mobilier mobile, contrairement à l'agencement qui fait du fixe.
Ouais.
La menuiserie, ça pourrait un peu s'élargir à tout ce qui est porte, fenêtre, pergola, escalier, terrasse,
pose de parquet,
etc.
Tout ça.
Parquet, ouais.
C'est vraiment un mot valise.
Et puis après la charpente, là c'est.
Ah oui, ça c'est encore un
autre domaine.
Encore un autre domaine dans le bois.
Autre domaine dans le bois. En tout cas, le domaine dans le bois dans lequel tu. Je sais pas où va cette phrase, mais en tout cas, toi Claire, tu fais. C'est parce que j'ai plus ma feuille en dessous, j'ai commencé à la ranger. Petit mobilier fauve.
Petit fauve,
tout simplement. Mobilier pour chat. Ou te découvrir et te suivre si on a des petits chatons chez nous et qu'on souhaite leur proposer des choses sur mesure pour éviter qu'ils détruisent notre canapé.
Et du coup, sur Insta, pour le moment, c'est le meilleur endroit. Ouais.
Petit
fauve. Vous pouvez m'écrire sur Insta, il n'y a pas de problème.
Ouais. Et parfait.
Petitfauve.mobilier.
Tu nous tiens au courant de la suite de tes aventures et tu repasses quand tu veux au micro de Topette.
Merci.
Koala, on passe du chat au koala avec toi, Victor. Le site internet, tu nous en as déjà parlé. Oui. Qu'est-ce qui est important de retenir en un tout petit mot ?
Que le mobilier sur mesure fait par des artisans, il n'y a que ça de vrai.
Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, on se retrouve demain à 18h10. Prenez soin de vous, Topette.
Tout est fou vu dans le... Je pense...